Bonjour tout le monde et bienvenue au 9e épisode du podcast Des équipements marquis. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'entendre une entrevue que moi et Tom, on a réalisée avec Sylvain Thompson, notre représentant forestier ici chez Les équipements marquis. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience dans le domaine forestier, ayant conduit des camions dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Et ça fait aussi plusieurs années qu'il est représentant ici avec Les équipements marquis. Alors, il connaît vraiment la machinerie et l'équipement, ce que ces machines peuvent faire. Alors, il est vraiment bien placé pour vous conseiller. Alors, sans plus tarder, voici l'entrevue avec celui que j'aime bien appeler Sylvain la machine. Vous allez voir, c'est une machine, il y a beaucoup de jasettes, puis c'est vraiment de quoi qu'il parle. Alors, j'espère que vous allez apprécier l'entrevue qui suit.
Moi, je me répète souvent. Souvent, je dis à mes gars, je ne sais pas si c'est la bonne machine que je te vends. Moi, je te vends, ce que je te dis, c'est ce qu'elle va faire. C'est à vous autres à prendre la décision. Quand que je vous dis, bon, ben, cette machine-là va faire une vanne de bois par jour, ça peut être vrai puis ça peut être pas vrai. Si vous m'avez pas donné les informations techniques, puis vous arrivez à une place où il n'y a pas de bois, vous savez bien, vous êtes tous des gens d'expérience. Vous savez bien, vous le ferez pas. J'ai pas à vous convaincre d'acheter la machine pour ce que vous allez faire. Moi, je peux vous dire ce que la machine fait. Avec une équipe comme Tom, on a des très bons techniciens. On a une gang de jeunes. Moi, je suis un vieux dans la gang. Mais la vérité, c'est que si vous achetez en fonction de ce que représente, c'est à vous à prendre cette décision-là. Nous autres, on peut tout simplement conseiller. Mais la personne qui prend la vraie décision, c'est la personne qui achète. Mais de quoi qu'il est sûr, présentement, avec un pick-up de 70 000 pour aller au bois, avec des fois un 50, 60, 75 000 piastres d'outils, avec des gens qu'on paye un assez bon prix de l'heure assis dans les machines pour nous aider, ben quand on run des vieilles machines, c'est pas long qu'on vient en difficulté. Mmh. Et souvent, les gens nous disent « Ah, oh, moi, j'achète pas de neuf parce que j'arriverai pas ou j'achète pas, je vais acheter une vieille machine. » Les gars, les cinq premières années qu'on achète une machine, on fait des paiements, mais on fait juste des paiements. Quand on achète une machine de 5 ans et plus, on fait des paiements et on fait des réparations. Ouais. Parce que la dépréciation est pas assez haute. Vous restez avec un bon montant, puis en plus de ça, faut vous la réparer. Les premières années, comme c'est là, on a des compagnies quand même de renom. AFM, c'est une très, très, très bonne tête. Quand on regarde dans les gens qui ont des commentaires, mettons, plus difficiles, beaucoup de personnes, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas acheté ce que ça lui prenait. Oui. Moi, les gens qui achètent le produit qu'on lui conseille d'acheter pour les données qu'ils nous donnent, ça va faire ce qu'on lui donne. Mais nos têtes sont extrêmement performantes. On a une tête qui a une très bonne solidité. On a une expertise. On a zéro problème avec nos têtes.
Il s'agit juste de prendre le bon cheval pour faire la bonne job.
Exactement. C'est quand tu sors n'importe quel produit, que ce soit dans le forestier, dans la construction, dans l'automobile, quand tu sors le produit de ce qui est intendu pour faire, c'est si je prends mon Kia pour aller faire du rallye demain matin. Regarde, je vais me rendre à la ligne de départ, mais me rendre à la ligne d'arrivée, pas sûr.
Ouais, c'est ça, une des choses qui est très importante à comprendre, c'est que quand on prend un abatteur, c'est pas pour faire tous les types de coupes, pas pour faire tous les types d'arbres. Puis quand on achète un abatteur, ben oui, il faut s'en tenir à ce qu'on a acheté. Là, faut pas essayer d'aller...
Exactement. Tu sais, la machine qui fait tout avec une efficacité de 100%, ça n'existe pas. Mm-hmm. Les types de terrain, les forêts, les climats... le type de bois, c'est tous des facteurs qui vont venir orienter le type de machine que tu as besoin. Puis malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est que le gars va acheter un produit ou une machine en pensant qu'il va être tout capable de faire sans problème. La réalité, c'est que ça se peut pas, ça.
Mm-hmm. Ah, il y a une autre grosse affaire qu'il faut dire, et tout, les gens sont pas de la même place. Tu as des gens qui sont extrêmement forts mécaniquement, très faibles au niveau de l'électronique. Il y en a d'autres qui vont être très forts en électronique, plus faibles en mécanique. Ça fait qu'il faut aussi prendre le temps de s'analyser pour faire le bon choix. C'est sûr qu'une personne qui achète une vieille machine, puis des fois j'entends ça souvent, le gars dit « Ah, moi c'est pas un problème, j'en ai une vieille, mais j'ai deux spares ou j'ai une spare, puis je prends mes morceaux après l'autre. » Mais tous ces gens-là oublient tout le temps qu'ils sont payés pour la production. En foresterie, c'est la production qui met de l'argent dans le compte de banque. C'est pas le mécanique. Les gens qui adorent faire du mécanique devraient s'acheter un garage, pas une bûcheuse. Parce que ça coûte trop cher, la bûcheuse, elle. Puis, je les comprends. On regarde tous les gens que ça va bien. Il n'y a rien qu'à faire le tour de l'industrie. Il y en a qu'on se dit, « Hey, crème, lui, il me semble que... » Mais il me semble, là, c'est sa production. Allez voir les cordes de bois qu'il fait. Puis le reste, là, vous pouvez tout l'oublier. Puis pour faire des cordes de bois, ça prend la bonne machine à la bonne place.
Exactement.
Puis on est capable de garder des opérateurs. Quand on veut, aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre. On veut un bon opérateur, on veut se former un jeune. On le pogne, on l'assit dans une vieille machine 99. L'air climatisé marche à moitié, la machine marche à moitié, ça pisse l'huile, le gars, il commence juste à être bon, il crisse ça là, il s'en va s'asseoir ailleurs. Les gars, c'est tellement difficile de se monter des bonnes équipes. Quand vous allez manger et que le gars vous met une assiette pourrie sur la table, vous l'achetez dans la poubelle, vous la mangez pas. Les machines, c'est pareil. On vit d'une période où c'est difficile. Les gens, pas qu'ils sont pas fidèles, ils ont des possibilités. La personne nous appartient peu aujourd'hui. Moi, je suis vendeur. Je suis chez l'équipement Marquis par choix. Si je voudrais vendre ailleurs, je pourrais vendre ailleurs.
Exactement.
J'ai des offres régulièrement. Il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas quelqu'un par sous-entendu qui m'offre toutes sortes d'affaires. Ça ne m'intéresse pas. J'ai une ambiance qui est agréable. J'ai une bonne équipe. J'ai des bonnes machines. Présentement, on a, on avait des objectifs à atteindre quand j'ai revenu pour l'équipement Marquis, ils m'ont donné des objectifs. Ils ont tous été dépassés, les objectifs. Extrêmement heureux de ça. Puis c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous autres. On explique la machine, on dit aux gens. Puis il y a gros des gens qui ont eu des machines dans le passé qui faisaient de l'argent avec, qu'aujourd'hui, les mêmes machines font plus d'argent.
Ouais. Non, les technologies ont changé, les besoins ont changé, puis tu sais, c'est une question d'adaptation. Tu sais, on s'en regarde dans le temps quand on bûchait à la main, tu sais, les besoins n'étaient pas les mêmes. Là, tu t'en vas quand ils sont tombés au skidder, ben là, comme on dit, la production est plus là. Puis là, tu sais, la technologie évolue, puis le secret, c'est de suivre l'évolution là-dedans.
Exactement.
Parce que c'est toujours une question de coût d'opération. Tu sais, tu vas pogner une vieille machine qui va avoir un coût d'opération versus qu'est-ce qu'il va en produire, ben, tu sais, c'est toujours basique. Faut que tu réussisses à faire de l'argent à la fin de la journée.
Ouais. Exact. Quand j'étais petit gars, moi, on a plumé du drame à main. On passait des journées de temps à plumer du drame. Mais ils nous donnaient une pièce par jour, des fois, on ne l'avait même pas. Fait que c'était facile de plumer du drame. C'était-tu rentable pour le gars qu'il faisait? Oui, parce qu'il ne payait pas. Mais un matin, tu voudrais faire plumer du drame? Tu paierais un petit gars à 3 piastres de l'heure, pis ça serait ben trop cher. La machine, elle plume un 30 dans 30 secondes quand ça rentre au moulin. Puis personne plume du 30.
Oui, ouais, c'est exactement ça. Il s'agit de suivre la courbe de l'évolution. Je pense que ça apporte un bon segue dans la première question. Dans le fond, on demande tout le temps à nos auditeurs s'ils ont des questions sur le podcast. Puis finalement, on en a une. C'est Alexandre Dubé. Je pense que Sylvain est très bien placé pour répondre à cette question-là. Fait qu'on l'a choisi pour aujourd'hui. La question, c'est, nous possédons plusieurs terres à bois et nous effectuons la coupe à bois à l'aide d'une scie et d'un skidder. J'aimerais savoir si vous pensez qu'il pourrait être une meilleure rentabilité à changer notre méthode de production pour une pelle 6 à 8 tonnes avec une tête à stroke et un porteur. Alors, Sylvain, je vais te laisser répondre à ça, puis on va y aller avec la question au début. On va passer une minute là-dessus, puis après ça, on peut aller plus loin sur le sujet.
Moi, je pense que la question est excellente. Le problème qu'on a à répondre à cette question, c'est le manque de données. S'il skid du bois de 4 pouces, oui, il va être heureux avec ça. S'il skid du bois de 12, 15, 20 pouces, 24 pouces, il va avoir de la misère à le faire avec une petite machine de 6 tonnes, même avec une tête à stroke. Par rapport que la machine est trop petite pour prendre des arbres de cette grosseur-là. Par contre, il pourrait améliorer son sort, possiblement, sans se rendre à une machine de 500 000. Avec une machine de 13 tonnes ou de 10 tonnes, mais même 10 tonnes, c'est borderline dans du gros bois de même. Tant qu'on n'aura pas les données techniques de la grosseur du bois, ça va être une question qui va être quand même possiblement invasive, puis la réponse va être possiblement invasive, parce que on n'a pas la vraie donnée pour répondre à la question. Mais la période à la main est finie pour tout le monde. Ouais. On n'est pas capable de produire assez, peu importe dans quoi qu'on est. On est dans un monde de mécanisation, tout est mécanique. Écoutez, prenez-vous un cheval, montez à Montréal, avec 3 jours, ça va coûter 2 billes de foin, mais 3 jours d'ouvrage. Mm-hmm. Fait que ça n'a rien coûté, mais ça n'a rien rapporté. C'est un peu la même affaire. Je pense que quelqu'un qui a des lots, avec qui a plusieurs arbres, puis qui run un vieux skidder, puis qui est avec une scie mécanique, je pense qu'il va trouver une rentabilité à aller vers une machine, avec une machine qui va processer son bois. C'est sûr. C'est juste de prendre le bon choix.
OK. Fait que si on dit, tu sais, lui, il peut faire de l'argent à runner ça avec sa scie puis son skidder. Est-ce qu'il ferait plus d'argent à avoir une machine à stroke? Mais là, c'est qu'on rajoute un paiement. C'est ça l'équation.
C'est sûr, mais il y a toujours, est-ce quel type de bois? Mm-hmm. Tu sais, c'est ça la question. Comme Sylvain, tu sais, c'est plusieurs facteurs mis ensemble qui vont décrire le big picture là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Tu sais, lui, son but, c'est juste de nettoyer son lot pour dire qu'il s'éloigne de sa femme puis avoir la pipe, pas de téléphone, ben, il est peut-être mieux de rester avec son skidder. Mais s'il veut avoir une rentabilité, il va avoir un confort d'opération, cabine chauffée, air climatisé, il veut faire ça à l'année longue, puis pas être obligé de se mouiller. T'sais, c'est plusieurs questions là, qu'il faut se poser. Là. Parce que, comme je dis, il y a plusieurs types de machines qui feraient la job. Tout dépend de ce que le client recherche. Puis qu'est-ce qu'il veut effectuer comme travaux. En même temps, c'est quoi le travaux? T'sais, c'est-tu du bois franc de 20-25 pouces à 80% ou c'est du bois mou de 14 pouces en moyenne qu'il va avoir sur son lot? C'est tous ces facteurs-là qui sont importants quand il va choisir la machine. Puis en même temps, pour déterminer, va-t-il y avoir une rentabilité? Mm-hmm. Y a-tu un acre de terrain? Y a-tu 50 acres de terrain? Y en a-tu 1000? Ça aussi, c'est un autre
la facteur. La compétence du type aussi. Souvent, si la personne a vraiment, vraiment aucune notion de mécanique, faut jamais oublier qu'à petite échelle, pour un particulier, il reste qu'on a de très bons contracteurs sur le marché. Je pense qu'à petite échelle, un particulier gagne à faire sa forêt par des professionnels. Parce que le skidder, souvent, va arracher sa repousse. La personne qui va être avec une multi, une bonne équipe, il va sauver souvent 10 ans sur la prochaine régénération par rapport à sa méthode de travail. Quand on pogne un arbre, qu'on le jette à terre et qu'on le traîne au sol, toute la repousse, on l'arrache, l'arbre est gros un peu. Quand on arrive avec une multifonctionnelle, avec un mât, avec un professionnel, il va faire un chemin au centre, il va couvrir 25 pieds chaque côté, ça veut dire qu'il va avoir plus ou moins 40 pieds de large avec un chemin, un skidder impossible. Ça fait qu'on a des professionnels qui sont équipés avec des machines de 500, 600, 700 000. Ces gars-là, je pense qu'ils peuvent rendre service à une personne qui a rien qu'un skidder puis qui perd sa prochaine régénération parce qu'il a trop brisé. Mais ça, c'est vraiment à la personne à s'assir avec les... Parce que présentement, on a gros des gens qui vont penser de... On peut pas tout être bûcheron. On peut pas tout avoir ces compétences-là. Puis on a des bons... On a déjà des bons bûcherons, on a déjà des bonnes équipes. Gardons nos équipes en forme. Oui, ça va peut-être, on pense que ça va coûter plus cher, mais ça coûtera peut-être pas plus cher sur une petite échelle. Sur une petite échelle, je pense qu'une personne a intérêt à s'engager des bonnes personnes. Mais quand le gars débarque sa machine, puis que lui, il coule à terre avant qu'il commence à faire son bois, je pense que c'est un mauvais choix de contracteur. Mmh. Fait que faut vous prenez le temps de checker vos contracteurs, prenez des contracteurs compétents, avec des bons équipements, puis c'est sûr que vous allez être gagnant pour faire un 200 acres ou un 150 acres. C'est mon opinion, mais je...
Oui, oui. Fait que pour répondre à la question d'Alexandre, dans le fond, il faudrait vraiment avoir plus d'informations sur sa situation.
Je pense qu'il devrait prendre le temps, prendre 5 minutes, lâcher un coup de fil à Sylvain, discuter de son type de terrain. Je pense que c'est là qu'il va être le plus rentable. C'est avoir les bonnes informations, je pense que c'est la première étape, la fondation dans l'évaluation d'acheter une machine. Ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine, puis quel type de machine il va avoir besoin?
Non, Tom a absolument raison là-dessus. Il n'y a pas d'erreur là. Mais...
C'est ça. Ça coûte pas cher un téléphone.
Non, c'est ça. Ça coûte rien.
Mais c'est sûr que quand que vous achetez une machine à 50 000 $ ou à 75 000 $, puis puis qu'elle valait 9 500 000, dites-vous que vous n'avez pas fait un deal, là. Vous avez acheté un tas de fer. C'est sûr que quand les machines travaillent bien, puis qu'ils vont bien, puis qu'ils performent bien, puis qu'ils sont finis de payer, ils sont pas à vendre.
Ouais, c'est ça.
Le gars, c'est la logique des choses. On a des gens que, oui, par souci de garder les bons contrats, puis de qualité. Moi, je pense que dans l'usager, acheter ça sans passer par un compétent pour la faire vérifier, c'est aussi bien de prendre ton 50 000 et le mettre à l'Auto-Québec. Tu vas avoir autant de chances de faire de l'argent comme de faire de l'argent qu'une machine qui n'a pas été vérifiée, que tu as acheté par coup de cœur. Puis quand que j'entends ça souvent, moi, ah, oh, le gars, une machine qui vaut 500 000, je l'ai eu pour 60 000. Voyons, tu n'as pas eu une machine de 500 000 pour 60 000. Alors, malheur à vendre, tu n'auras pas 500 000. Tu vas en avoir peut-être ton 60 000 si tu es chanceux. Fait que c'est pas vrai que la personne qui décide de s'acheter une vieille machine, que, oui, dans la tête, il pense qu'il a acheté une machine de 500 000. Il a acheté une machine de 60 000 qui vaut peut-être 45
000.
Mm-hmm. Et, tu sais, je dis pas que c'est pas bon, mais il faut être extrêmement prudent, extrêmement connaissant. Je pense que c'est pis être aussi un petit peu gambler. Parce
ouais,
que,
c'est ça que j'allais dire, c'est un risque.
C'est un risque, c'est...
Bon, je pense que si mettons on veut aider Alexandre un petit peu plus, puis lui nous parle d'une tête à stroke sur une pelle de 6 à 8 tonnes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme production dans du bois moyen?
Ben moi, je pense que 6 à 8, il en manque un petit peu, ça peut se faire. Moi, je dirais 9 à 12, ça conviendrait mieux que de 6 à 7. 6 à 7, il en manque un petit peu.
Il faudrait parler, mettons, d'une 75 minimum en montant. Allez, okay. Mettons, à 10 tonnes pour avoir de quoi qui vaut la peine.
OK. Fait que si on parle de... Si on va y aller avec une machine de 10 tonnes, c'est tête ça. À stroke...
Bon, monsieur, machine de 10 tonnes, tête à stroke, 9 tonnes, tête à stroke, 8 tonnes... J'irais 8 tonnes, ça pourra se faire, ce sera pas méchant. Mais la vérité, c'est que la mettre conforme pour qu'elle fasse cet ouvrage-là, on parle pas de mettre 10 ou 12 000. On parle de mettre 100 000. Fait que là, poser la question, c'est un peu du répondre. Je mets 100 000 là-dedans pour produire plus ou moins une demi, trois quarts de vente par jour. Okay. C'est vraiment chaque personne d'évaluer si...
Oui, c'est ça. Fait que si on répond à Alexandre, dans le fond, c'est que la réponse, c'est qu'avec la machine qu'il nous propose, ce qu'il pourrait atteindre, ça serait une demi à trois quarts de vente par jour. Fait que c'est à voir de lui s'il a la main avec sa scie et son skidder, s'il produit plus que ça.
Exact.
C'est voir le paiement que ça lui apporte aussi.
Mais il ne faut pas perdre de vue sa régénération. Skidder,
c'est
extrêmement dur sur la régénération. Il y a des temps de l'année que c'est plus facile. Mais si on...
L'autre facteur aussi, c'est, tu sais, est-ce qu'il veut travailler sur son lot à lui? Ça veut dire que tout son bois, il revient à 100% quand il bouge.
Ouais, c'est ça, c'est plus
facile. S'il travaille pour un autre, ben là, c'est un autre paire de manches.
Ouais, mais
c'est un autre facteur.
Faut jamais perdre de vue, Tom, que quand tu le fais faire, comme là, si son bois, il revient à 100%, oui, il a un petit peu plus dans les poches, mais il y a un coût relié à ça.
Ah, c'est
fait sûr. Quand tu le fais faire, des fois, ça coûte pas plus cher, il va te rester autant d'argent dans tes poches si tu choisis le bon contracteur puis t'as vraiment la bonne essence. Mais tu sais, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre pis l'argent du beurre non plus. Ces gens-là qui ont investi 1 million, qu'on ait le vie, plus une expertise assez importante pour aider à toi-même ta production, il y a une valeur. V'là plusieurs années, ce qui forçait un peu plus les gens à aller vers cette formule-là, c'est qu'on n'avait pas de contracteur. Présentement, la région ici est choyée, d'autres régions c'est plus difficile, mais je pense qu'ici on a pas mal de très bons contracteurs, on a de très bonnes machines, on a de... Moi, je pense, en tout cas, pour les gens qui sont à petite échelle, je dis pas de prendre 5 minutes pour nous appeler et dire « Bon, on voudrait des conseils. » Mais la vérité, c'est prenez le temps et tout d'appeler les gars qui en font déjà Puis après ça, prenez la décision. Tu sais, c'est sûr qu'on veut tout 100% de notre paye, mais chaque fois qu'on a notre paye, on a une partie qui va pour l'assurance maladie, qui va pour nos routes, qui va pour nos médicaments, qui va... les pays qui ont pas ça vivent pas mieux que nous autres. Ça fait que c'est un petit peu pareil. Là. Quand tu dis que t'as 100% de rien, c'est bon, mais... quand le bois mature, il est tombé, puis ça t'a pris 3 ans de ramasser, la moitié est pourrie, c'est des pertes totales. Fait que tu fais appel à ces gens-là, ils vont te sauver ta repousse, ils vont ramasser, ils vont maximiser ce qui a été tombé. Puis c'est comme, je me répète, mais en région, ici, on est choyé, ces contracteurs forestiers. On a de très bons travailleurs forestiers, on a de la bonne machine. Je dis tout le temps, regardez la machine du gars, puis ça va vous dire qui prend.
Alors, ça, c'est
sûr. Les bonnes équipes, c'est les gens qui marchent. Les autres, ben, c'est pas que je suis contre ça, ça me dérange pas. Mais moi, si j'ai un lot à bois, puis je décide de faire bûcher, c'est parce que je veux mon argent. Puis le contracteur qui va me le faire, il va me donner mon argent. Puis si ça me prend 3 ans, en plus de perdre mon bois qui est tombé, ça va me prendre 3 ans à faire avoir mon argent. Fait que je pense que si vous prenez le temps de regarder ça avec les bons contracteurs, pour les ceux qui ont des 100, 200 ans, je pense pas que ça soit rentabilisant de faire ça, de s'acheter une machine puis de le faire. Oui, comme AB, mais on peut s'acheter un bateau et tout, puis c'est plaisant.
Oui, oui. Je pense qu'Alexandre, lui, nous disait que c'était ses propriétaires, mais je pense qu'on a très bien répondu à la question. Je vais ramener la conversation vers un autre côté, c'est une question qu'on a souvent, c'est le débat entre les têtes à rouleau et les têtes à stroke. Je pense que tu nous as déjà proposé à peu près ce que ça peut faire une tête à stroke. Peux-tu nous expliquer?
Ben moi, je pense que c'est deux bonnes têtes, sauf que c'est vraiment pour des personnes différentes. Si les personnes qui vont acheter une tête à stroke, je pense pour usage personnel, je pense que ça reste une très bonne achat. Quand on parle usage personnel, c'est un petit peu comme dans le monsieur que tu nous as parlé tantôt. Là, on ne sait pas sa grosseur des arbres. Mais dans les têtes à stroke, pour un gars qui fait son bois à lui, mais 99% des gens qui achètent ça pour faire le bois, ils ont tout le temps une petite idée derrière la tête en se disant « Mais j'ai fini, je vais aller ailleurs.
Ouais. »
Puis c'est là que ça se gâte, ce produit-là. Pour faire ton aménagement personnel, faire tes scuries, faire... Mais tu sais, à petite quantité, le contracteur reste encore le gars à favoriser. Par contre, si t'as ta pelle derrière la grange, puis que tu décides d'aller vers ça, je pense que tu peux être heureux avec ça, parce que à tes heures, à tes affaires, mais ce sera pas vraiment une question de... La vérité, c'est que si t'as bien acheté, t'as bien produit, tu vas ramasser 100% de ton bois, puis tu devras remettre ta machine sur le marché à un prix assez raisonnable que ta perte sera pas grosse. Oui, c'est un bon investissement pour, comme le monsieur, s'il prend le temps de bien...
analyser sa situation.
Je pense que oui, ça peut être rentable.
Mais tu peux-tu... OK. Fait que là, tu nous dis que pour les gens qui seraient plus intéressés à en faire un business, ça serait plus d'aller vers quelque chose avec une plus grande production pour un investissement qui est pas beaucoup plus grand?
Exact. On se répète tout le temps quand on jase de ça, mais en introduction, on dit qu'on est payé pour le bois qu'on produit. Ça fait que c'est comme si tu me disais à moi, assieds-toi sur cette chaise-là, je vais gagner 12$, je tasse de 3 pieds, je m'assis de la même chaise, puis j'en gagne 20. Parce que je suis payé pour la production que je produis. Ça fait que poser la question, c'est dû répondre. Puis le plus gros problème qu'on vit avec les têtes à stroke, c'est réussir à se monter une équipe. Parce que tu veux, le gars qui sort le bois veut un prix, veut un salaire raisonnable pour vivre. Ben, si tu produis pas assez pour qu'ils peuvent sortir du bois toute la journée, tu fais quoi avec ce gars-là? T'sais? C'est là que ça devient problématique. Le gars qui est tout seul, puis qui dit, ben, moi, je bûche l'avant-midi, je sors d'après-midi, ou le gars a 50 ans, 45 ans, dit, mon père va sortir mon bois, ou mon petit gars va me le faire la fin de semaine. C'est un très bon produit, c'est un produit qui est bon, c'est un produit qui est fiable. Il n'y a pas d'erreur là. Tête à stroke, je suis loin d'être contre ça. C'est un bon produit. J'en ai vendu beaucoup. J'ai tout le temps dit pareil. Ça fait plus ou moins une vente par jour. Faut que le bois s'aille là. Avec les années, avant, on n'était pas capable de mettre une tête à rouleau sans changer de braquette de prix énormément. Présentement, on a la chance, avec la même machine, de pouvoir upgrader notre production de beaucoup avec...
sans un gros changement de braquette. Là.
Sans un gros changement de braquette. Par contre, on se répète, le bois devient la carte. C'est la carte qui décide si on peut le faire. Si moi, j'ai 100 arbres, puis j'ai tout du bois de 16, 17, 18, j'en ai un petit peu de 13, 14, ma moyenne, c'est tout du gros bois, puis je veux aller avec une pelle mécanique, ça va être assez difficile si je veux pas changer de braquette de prix, de sortir d'un stroke, tu sais. Mais si je regarde ma production, puis je dis, bon, ben, à prix égal, j'y vais là, ben, c'est sûr que... La tête à rouleau. Aussitôt qu'on parle de gagner notre vie, je pense qu'on parle de tête à rouleau.
Okay. Fait que tantôt, on a parlé d'une demi à trois quarts de vanne avec une tête à stroke sur une pelle de distance. Si on met, mettons, une AFM 35 sur une pelle de distance, environ...
Ben moi, je dis qu'on va être minimum 50% d'augmentation, c'est-à-dire qu'on va être à une vanne et quart, une vanne et demie, deux vannes. J'en ai vendu une l'année passée, durant l'hiver.
Ouais,
le type, lui, sortait avec un tracteur, puis la machine avait fini de bûcher, puis il a sorti du bois. Moi, je te dirais... 3 semaines, 1 mois après, parce qu'il n'avait pas réussi à sortir son bois. Ouais. La vérité, il y avait le bois favorable pour le faire, mais c'est exceptionnel. Ouais. Une machine à rouleau, la vérité, pour une pelle de ce grosseur-là, c'est une vanne et quart, une vanne et demie. Dans le tête à stroke, c'est une demi-vanne, trois quarts de vanne. Exceptionnellement, une vanne. Exceptionnellement, deux vannes à rouleau. Exceptionnellement, une vanne à stroke. Mais c'est aussi relatif. Vas-tu faire 12 heures ou tu vas faire 15 heures? Si tu me dis, moi, je m'achète une tête à stroke puis je fais une vanne et quart, c'est-à-dire, je vais te le prouver n'importe quel temps, je le sais qu'il peut le faire, mais pas dans 8 à 10 heures. Il va le faire dans 15 à 18 heures. Mais là, la tête à rouleau, s'il met le même temps, il va être en proportion de ça aussi.
Oui, oui. Puis ça, la machine que tu parles, c'est la machine qu'on a faite en vidéo. Je pense que si les gens veulent l'avoir travaillée, cette machine-là, je pense que la journée que je suis allé l'avoir, elle a fait proche de ses deux vannes par jour. C'est sûr que c'est une plantation, fait que ça travaillait super bien. Ça a fait un super beau vidéo. Si vous voulez voir ça sur YouTube, juste rentrer Yann Mort SV100 à AFM 35, vous allez trouver ça assez rapidement. Fait que tu me parles d'une tête à rouleau qui produira environ 50% de plus de bois pour un investissement qui est à, je dirais, 10 à 15% de plus. Fait que ça me semble être... Pour une entreprise, ça me semble être une décision qui
est facile à prendre. C'est une décision logique, mais on reste tout le temps avec la même problématique. C'est-à-dire que la foresterie, il faut acheter pour 80% dans le marché. Ça fait que si tu as 80% du bois moyennement gros, c'est pas vrai ce que je te dis là, ça le fera pas.
Ouais,
ça fait qu'il faut absolument analyser, décider. Puis tu sais, quand on parle de gens, mettons, extrêmement compétents, qui ont des machines, ça va plusieurs années, tous ces gens-là comprennent assez vite, puis tous ces gens-là vont nous répondre, « Oh, ben c'est facile de faire une vanne assise sur ta chaise, toi. » C'est vrai. Mais les gens qui ont des machines neuves, puis qui bûchent à tous les jours, le font. Les gens, souvent, ils arrêtent de le faire, puis ça n'aperçoivent pas. La machine a vieilli, ils commencent à perdre une journée de temps en temps, ils commencent à perdre une semaine de temps en temps. Puis là, il dit, moi, j'abrige plus mes 3 vannes ou mes 2 vannes. C'est vrai que tu les abriges plus. Mais tu mets plus le temps d'abattage que tu mettais dans la première année de ta machine neuve. Puis le gars n'a pas connaissance parce que on s'endort sur nos affaires. Quand tu vends beaucoup ou quand que quand que la business va bien, on arrête de s'améliorer. On est déjà plein rendement, on manque de gens, notre potentiel, on oublie c'est quoi qui nous a mis au monde. On oublie comment est-ce qu'on a fait de devenir une bonne personne, un bon travailleur, parce qu'on avait des bonnes machines. Les gens qui ont eu des vieilles machines, qui avaient de la misère à gagner leur vie, quand ils ont eu des machines neuves, ils ont tous dit, j'aurais dû faire ça avant. Les mêmes gens 10 ans après, il y a encore des vieilles machines.
Puis ils refont l'erreur.
Ils refont pas l'erreur. Ils se disent, hey, payez, fini de payer. Mais la vérité, personne qui a acheté une machine neuve a payé sa machine. Ça a tout le temps été la machine qui a payé le gars.
Alors,
ça fait sûr. Que. C'est pas vrai que le gars, il dit, moi, là, tabarnak m'a fait des paiements de 6 000 par mois. Non, non, non. Hey, c'est pas toi qui fais des paiements. C'est ta machine qui te fait vivre. Avant, quand t'avais ta vieille machine, t'avais de la misère à prendre 500$ par semaine. Aujourd'hui, tu rends un pick-up de 70 000$, tu vas au restaurant une fois par semaine, puis tu fais une vie qui est convenable. Puis t'as, au-delà de ça, tu même choisis tes clients. Tu dis ça, je fais pas ça, ça, je fais pas ça, y a pas une scène à faire avec ça. Donne ça à un gars qui est... Moi, dans mes bons contracteurs, là, j'ai des gars souvent qui m'appellent « Hey! » Tu connais-tu un gars qui a une tête à stroke pour aller faire ça? Lui, il veut pas le faire. Il sait que c'est pas payant.
Mm-hmm.
Il veut pas le faire. Il choisit, lui. Lui, il va en faire de l'argent. Puis le gars à stroke, ben, il pourra jamais remonter parce qu'il fera jamais d'argent. Le gars qui est bien outillé, il veut pas le faire parce que c'est pas bon. Puis il demande à un gars qui est moins bien outillé de le faire. Tu sais, c'est bien, bien facile.
Ouais. Je pense que c'est très bien expliqué. Je pense qu'on a bien élaboré le sujet. On voit que Sylvain sait de quoi qu'il parle. Fait que si vous avez des questions sur les abatteurs, Sylvain, c'est ce qui fait la journée longue parler de ça. Fait que n'hésitez pas à le contacter, hein, chez les équipements marqués ou son cellulaire directement. Je connais le numéro par cœur. Fait que je vais le donner. 819-452-4255. On va passer à une autre question qu'on a très souvent. Puis qu'on en a parlé un petit peu tantôt. On disait une tête à stroke, une machine 7, 8, 9 tonnes. Ça peut passer, mais ça passe pas avec une tête à rouleau. Je pense que c'est peut-être plus une question pour Tom, mais c'est quoi qui fait que ça marche pas, une tête à rouleau en bas de 10 tonnes environ?
Il y a deux raisons. La plus grosse raison, c'est le HP moteur. Puis l'autre raison, c'est le débit hydraulique. Une tête à stroke, faut pas oublier, c'est ni plus moins qu'un cylindre qui rouvre, qui ferme. C'est une fendeuse de luxe. Donc le facteur, si on a moins de débit d'huile, on fait juste ralentir la vitesse, on n'affecte pas la force. Tandis que dans une tête à rouleau, on parle d'inertie et de torque. Pour être capable d'obtenir ça, ça prend un débit hydraulique à une pression X. Puis pour obtenir ça, ça prend le HP qui est en arrière. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas capable d'aller chercher la combinaison des deux avec une machine de 7 à 8 tonnes parce qu'on n'a pas l'HP brut qui est en arrière ou le débit hydraulique ou les deux. Donc, c'est ça qui affecte le plus, dans le fond, la performance. C'est pour ça que souvent que les machines de 7-8 tonnes, on peut pas le faire parce qu'on est, tu sais, il y a pas assez de moteur, il y a pas assez d'huile de disponible pour faire marcher une tête à rouleau. La SV100, ce qui est correct, c'est qu'avec AFM, on a réussi à combiner les deux produits ensemble pour que ça soit un produit qui fonctionne bien. Fait qu'on a 75 HP de moteur avec la SV100. On a au-dessus de 58 GPM, 58.5 total sur la machine. Puis avec les ingénieurs chez AFM, tu sais, on a testé le produit, ça fonctionne. Est-ce si on aurait moins que ça, ça ne marcherait pas parce que, à un moment donné, c'est de la physique. Là. Tu peux pas redessiner les lois de la physique. Ça arrive souvent que des clients vont nous dire oui, ça se fait, mais la réalité, c'est que non. Tu sais, la physique, c'est de la physique, ça change pas.
Fait que la réalité, c'est que ça se fait absolument pas. Là. J'ai vraiment regardé sur les sites, les forums de discussion des gens qui disent tu rajoutes une pompe hydraulique, des trucs de même.
L'énergie ne se crée pas. Tu peux rajouter une pompe hydraulique, mais tu as besoin de l'énergie pour la faire tourner. Fait que tu sais, tu peux pas. C'est encore là, c'est les règles de la physique. Si tu as 70 forces, tu as beau mettre une pompe qui est capable de donner 100 gallons, mais tu as juste 70 forces pour la faire tourner.
Papa me fait virer ta
vie. Fait que c'est de la physique. L'énergie, rien ne se crée, rien ne se perd. C'est le même principe. Fait que c'est tout un calcul qui est de base. À souvenir. Fait que, tu sais, si tu peux pas, tu peux mettre la tête à rouleau. Est-ce que ça va fonctionner à sa pleine efficacité? Non. C'est sûr que si tu peux mettre une tête à rouleau sur une machine de 8 tonnes, puis que ton target, c'est de faire du bois qui a 4 pouces de diamètre, 5 pouces de diamètre, ça va marcher, pas de problème.
Pas de branches enlevées.
La réalité, c'est que c'est pas ça. Il y en a beaucoup, beaucoup des produits en Europe qu'on voit des petites têtes à rouleau sur des machines de 4, 5 tonnes. Mais la réalité, c'est que c'est fait pour faire ça.
C'est du débroussaillage.
C'est du débroussaillage.
C'est de la bioénergie.
De la biomasse. Nous, on n'a pas ce marché-là. Puis c'est ça qui arrive, c'est que les gens vont voir cette vidéo-là sur Internet.
C'est exactement ça qui est arrivé.
Très mal informés. Ils disent, ben oui, je l'ai vu, ça fait oui. Mais c'est pas ça que toi, tu veux faire. Fait que c'est là où c'est important d'avoir autant un bon backup technique que d'analyser, puis on revient à ce qu'on disait tantôt, le besoin du client, la forêt. C'est sûr que, tu sais, nous autres, on parle aussi d'une moyenne, tu sais, la FM35, présentement, qui a une capacité de 16 pouces d'ouverture au rouleau, va travailler dans ce qu'on est capable de faire très bien avec une Yanmar SV100. C'est sûr que si le gars a une machine de 5 tonnes puis qu'il va acheter une tête à rouleau pour la faire marcher, mais qu'il travaille dans ce bois de 4 pouces, ça va fonctionner. Mais pense pas de monter plus gros. Ça fonctionnera plus à ce moment-là.
Ouais, ouais, c'est ça qui arrive.
Que... les branches grossissent.
Ouais, c'est exactement. C'est là le problème.
Le bois est plus pesant. Fait que c'est tous des facteurs que la tête à rouleau vient. C'est bien important d'avoir les bonnes capacités hydrauliques pour être capable de faire parce que c'est vraiment une question d'inertie et de torque.
Et l'autre affaire qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en foresterie, c'est extrêmement important que ça devienne un investissement. Il faut trouver un marché secondaire. Quand on décide d'acheter puis qu'on a un bon produit, on a tout le temps un acheteur pour ce produit-là. Même si le gars, c'est une affaire de luxe, lui, c'est plus une question de rentabilité. Lui, c'est une question de besoin. Il y a des gens qui gagnent une vie, mais il y a des gens que... ils n'ont pas besoin de gagner leur vie. Leur vie a été gagnée même avant qu'ils viennent au monde. Ça fait que tu as des gens qui vont s'acheter une machine du moment qu'elle fonctionne bien, sont heureux. C'est pas une question de rentabilité. C'est de là qu'il vient l'importance que si vous décidez de faire une machine, ben de faire une machine qui marche. Une machine qui marche, il y a tout le temps d'acheteurs pour ça. Une machine qui marche pas, il n'y a pas d'acheteurs pour ça. Fait que ça devient une perte totale, mais quand on part avec une machine qui a un potentiel ou que la machine fonctionne mais qui a pas le rendement, ben pour d'aucuns, c'est parfait. C'est pas le rendement qu'ils veulent. Ils veulent une machine, quand ils s'assisent dessus, ils veulent couper l'arbre. Eux autres, ils le coupent pareil à la main, mais le gars veut pas le couper à la main. Il veut être assis à l'air climatisé pour le couper. Puis s'il en coupe trois dans sa journée, ça le dérange pas. Mais il faut qu'il soit capable de couper les toits. Il faut pas qu'il débarque couper les toits. Il faut qu'il reste assis et que la machine le fait. Oui, avec une machine à stroke. Oui, avec une machine de 10 tonnes. Avec une machine de 6 tonnes, je pense qu'il en manque. Honnêtement, on a vu toutes sortes de machines sur Internet. On a des têtes qui font juste couper. Mais la vérité, c'est pas l'abattage qui est le problème. C'est les branchages.
Oui.
Fait que, tu sais, si tu dépenses 5 000$ pour abattre, puis que tu veux pas de sécurité, tu peux venir quand t'arranges avec ça. Mais la vérité, ça va être une machine qui servira pas beaucoup. Parce qu'après, tu l'as abattu, faut que tu débarques, faut que tu ailles le mesurer. La vérité, c'est plus un gadget. Vous êtes mieux de faire une machine qui va avoir un full processeur, qui va couper, qui va faire ses longueurs, qui va être branché, puis qui va avoir une valeur de revente, parce qu'il va avoir une personne qui va vouloir ça. Non, ça fera peut-être pas pour le gars qui va aller gagner sa vie, mais ça peut faire pour la personne qui a déjà gagné sa vie, puis qui a de l'argent, puis qui a des terres, puis qui veut pas d'engager, puis qui veut pas donner sur un contracteur. Je pense que si on prend une machine de même, on va tout le temps avoir un acheteur. Mais faut absolument avoir une machine qui fonctionne.
Ouais. Bon, ben, je pense que ça l'a fait le tour du sujet. Je pense qu'on a très bien répondu à la question d'Alexandre puis qu'on y en a donné bien ouais. Plus pour son argent. Fait que t'avais-tu d'autres choses à rajouter, Tom?
Suivez notre page Facebook dans les prochaines semaines. On va faire un petit vidéo, une petite démonstration du X-Crane Plus. Fait qu'on peut voir un peu c'est quoi. C'est dans le fond qui est la braquette au-dessus du X-Crane normal. Il va y avoir ça qu'on va regarder. À part ça, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ouais, toutes les plateformes sont là pour nous contacter. Sur notre site web, page Facebook. À part de ça, c'est pas mal
tout pour nous. Toi, t'avais-tu un mot pour...
Non, moi, la seule affaire que je peux dire, je remercie nos travailleurs de nous encourager. On essaye de donner tout le temps le maximum. On n'est pas infaillible. On peut venir qu'à faire des erreurs. Mais quand il y a erreur, normalement, on apprend nos erreurs, puis on est tout le temps ouvert. On est bien conscient que ce qu'on dit, c'est tout le temps général. Il y a peut-être des gens là-dedans qui vont trouver que ça reste. Peut-être que dans leur tête, eux autres, c'est pas vraiment ce qu'ils auraient aimé entendre. Mais la vérité, sûr, dur comme bois, il faut qu'on soit, faut que la production soit là pour qu'on ait un paiement. On est payé pour la production. Fait, faut jamais perdre de vue que faut produire si on veut rester en foresterie. Les coûts sont trop importants pour être là sans une bonne production.
Je pense que ça résume bien ce que toi tu fais ici chez les équipements Marquis. Puis tu donnes tout le temps un excellent service aux gens pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Pas nécessairement avec quoi ils sont rentrés en tête, mais ce qu'ils ont besoin selon leurs besoins. Je pense que le podcast en fait très, très bien la morale de tout ça. Fait que je voulais juste mentionner qu'on va être aux expositions agricoles dans la région. Cookshire 15 au 18 août, Ayerscliff 22 au 25, Richemont du 5 au 8 septembre. Ensuite, il y a la 10e journée forestière organisée par le syndicat des producteurs de bois de la Mauricie le 8 septembre à Trois-Rivières. Sylvain, je pense que tu vas être là.
Je vais être là.
Puis après ça, il y a la journée forestière du Centre du Québec au Mont-à-Pic le samedi 21 septembre. Fait qu'encore une fois, si les gens veulent voir Sylvain, si vous avez des questions à poser, vous voulez parler de machines, il va être là ces journées-là. On apprécie vraiment beaucoup la question d'Alexandre aujourd'hui. Si vous avez des questions, vraiment pas hésiter. Je sais qu'on a notre technicien en chef, là, je veux pas exagérer, mais quand ça va sur le terrain, un technicien en chef, ça coûte 115-120$. Puis vous pouvez lui poser des questions, puis ça nous fait plaisir d'y répondre justement pour créer du contenu. Fait que vous avez un expert, puis ça coûte rien. Fait que gênez-vous pas, que ça soit technique, envoyez-nous une question. Mon radiateur marche plus, c'est quoi je fais, comment je le démonte, peu importe,
des conseils de mécanicien sur comment, c'est quoi la meilleure méthode de procéder, garde n'importe quoi, gênez-vous pas poser la question.
Ça peut être ça super technique ou une question plus large comme qu'on avait aujourd'hui, ça nous fait plaisir d'en discuter, fait que... Merci beaucoup, puis à la prochaine.
Bonne journée.
Bonne journée.